France Inter, le 18-20.
Ça va prendre du temps, mais on y arrivera. C'est ce que disait aujourd'hui François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, au sujet de la réforme des institutions. Difficile, oui, parce que ça grince. Mais de quoi parle-t-on exactement? De l'introduction d'une dose de proportionnelle à l'Assemblée, on l'évoque depuis au moins 3 mandatures. On évoque la réduction du nombre de parlementaires, ce qui fait bondir dans les deux assemblées. Cela éloigne les gens du terrain, c'est ce qu'on entend le plus souvent. On parle aussi de la limitation à 3 mandats successifs. Ce sont les points principaux que l'on commence donc à discuter dans le cadre de cette réforme des institutions. On parle aussi de supprimer la Cour de justice de la République. On évoque l'idée de procédures parlementaires plus simples et plus rapides. Les points essentiels, en tout cas, rendent certains de nos parlementaires dubitatifs, certains constitutionnalistes aussi d'ailleurs. Faut-il toucher notre système? Faut-il le modifier? Faut-il demander aux citoyens que nous sommes de décider par référendum s'il faut le toucher? C'est d'ailleurs la menace qui plane aujourd'hui. Tout est sur la table et puisque vous votez, puisque vous avez sans doute un avis aujourd'hui, voire des idées plus radicales à les savoir, et si on supprimait le Sénat, si on revenait au septennat, si on abolissait le 49-3, avant d'en arriver là, la réforme des institutions est en route. À vous de nous dire ce que vous en pensez et soyez les bienvenus dans le Téléphone Sonne.
Fabienne Saint-Ès. Le Téléphone Sonne.
André, c'est vous le premier. Soyez le bienvenu, on vous écoute.
Bonsoir. Cette réforme, comme toujours, comme dans toute réforme, il y a à boire et à manger, et puis il y a à ne pas manger surtout. Et il y a deux axes, à mon avis, qui sont très importants. Le premier, c'est de limiter le nombre de parlementaires, aussi bien députés que sénateurs. C'est une chance, c'est une très bonne idée, parce que moins il y a de parlementaires, plus ils sont puissants. Prenez aux États-Unis, il y a 100 sénateurs en tout et pour tout pour un pays qui est 15 ou 20 fois plus grand que la France, et 7 ou 8 fois plus peuplé. Ces hommes-là sont puissants et sont des véritables contre-pouvoirs face au gouvernement et face au président. Donc la limitation du nombre de parlementaires, c'est très bien, et en plus ça permet de faire quelques économies budgétaires, même si ce n'est sans doute pas l'argument clé. Par contre, il y a une aberration dans ce projet de réforme, c'est de limiter le nombre de mandats à 3. Ces parlementaires sont élus directement par le peuple, surtout pour les députés, et on va dire un parlementaire qui a fait un travail remarquable, un parlementaire qui a fait un travail de grande qualité, ben vous avez fait 3 mandats, maintenant c'est fini, raus dehr. Ça me semble profondément iconoclaste. On va se priver de gens de qualité. Moi, je crois que le peuple est suffisamment grand pour dire ben, celui-là, on veut le garder, ou celui-là, on n'en veut plus. Et s'il se représente, on ne vote plus pour lui. Donc, du très bon, mais aussi une erreur grossière en tentant de limiter le nombre de mandats à 3. Ça me semble une erreur grossière.
Et merci beaucoup, André. Grâce à vous, on a déjà balayé beaucoup de choses sur lesquelles on va revenir, évidemment, jusqu'à 20h sur France Inter. Pour vous répondre et pour débattre avec nous ce soir, Damien Abad est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député Les Républicains de l'Ain. Et Olivier Roucan également, bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Roucan, vous êtes politologue constitutionnaliste et vous avez écrit notamment « En finir avec le président ». C'est publié chez François Bourin. Alors l'un après l'autre sur ce que disait André, d'abord, on a l'impression, Damien Abad, qu'il y a une sorte de majorité, il y a d'ailleurs un sondage qui le dit, beaucoup de gens seraient favorables à moins de parlementaires, aussi bien chez les députés que chez les sénateurs. Comment se fait-il qu'on veuille vous réduire à la portion congrue?
Bon, vous savez, si on demandait à tous les Français s'il faut supprimer des parlementaires, tout le monde répondait oui, tellement il y a une fracture profonde entre le peuple, les citoyens et les parlementaires. Donc je pense que même on en proposerait 200, 150, voire zéro, on trouverait encore des Français favorables à cela.
92%, tiens, oui. Je vous le dis, selon un sondage Harris Interactif pour LCP, vous l'avez peut-être vu, 92% qui veulent que vous soyez moins nombreux.
Ça ne m'étonne pas, je suis d'ailleurs frappé qu'il y en ait encore 8% qui souhaitent le contraire. Je partage ce que dit André, mm-hmm. Votre auditeur. Moi, je suis favorable à la réduction du nombre de parlementaires, mais à une condition, c'est que ça s'accompagne du renforcement des pouvoirs du Parlement. Parce que si on diminue le nombre de parlementaires, c'est pour mieux travailler, pour être un vrai contre-pouvoir et pas à la botte de l'exécutif, comme c'est le cas actuellement. C'est vrai, l'Assemblée nationale française est en train de devenir une chambre d'enregistrement, un conseil d'administration d'une grande entreprise où finalement le seul pouvoir, c'est d'appuyer sur un bouton et de voter comme le président lui demande. Donc moi, je partage l'idée de réduire le nombre de parlementaires, mais à condition que le Parlement soit un vrai contre-pouvoir. Et sur le deuxième point, je partage aussi l'analyse de notre auditeur. Parce que limiter les mandats à 3, c'est vrai qu'intuitivement, ça peut paraître comme quelque chose de positif. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est plus le peuple qui choisit. Ça veut dire qu'en fait, c'est la loi qui choisit. Eh bien, moi, je pense que ce doit être les Françaises et les Français qui doivent choisir. Quand quelqu'un est bon, au nom de quoi il doit partir au bout de 3 mandats? Quand quelqu'un est mauvais, il doit même partir pour moi au bout du premier mandat. Et que c'est les Français qui doivent décider et que c'est l'élection qui doit faire cela. Et d'ailleurs, il n'y a pas de difficulté avec ça. On a vu la volonté de dégagisme politique qu'il y a eu lors des élections législatives. Et donc, il n'y a pas besoin d'une loi pour, je dirais, sortir les parlementaires qui n'ont pas fait leur job.
Olivier Roucan, je vais vous donner la parole dans un instant. Mais ce que j'entends, Damien Abad, c'est que c'est le fait majoritaire qui vous gêne, en fait. Le fait qu'effectivement, c'est toujours, quand il y a une majorité de parlementaires derrière le président de la République, bah, logiquement, les parlementaires votent pour les lois présentées par le gouvernement.
Ce n'est pas le fait majoritaire qui me gêne, parce que moi, je défends les institutions de la Ve République et je n'ai pas envie que mon pays...
Non, mais la solidarité pourrait être différente,
après tout. Je réponds là-dessus, parce que c'est une vraie question. Je ne veux pas que mon pays devienne comme l'Italie ou comme l'Allemagne en ce moment, c'est-à-dire un système de coalition où il n'y a plus de possibilité de gouverner parce qu'il n'y a pas de majorité claire d'idées. Donc je suis pour le fait majoritaire. Mais le fait majoritaire, ça ne veut pas dire être à la botte de l'exécutif. Moi, je souhaite que les parlementaires ils soient libres et responsables. Et quand il y a des sujets qui ne vont pas dans le bon sens, je vous prends un exemple. Les 80 km/h. On voit bien aujourd'hui qu'il y a un débat au sein de la majorité En Marche. Pourquoi on n'a pas des députés En Marche qui s'expriment et qui disent « mais nous, on n'est pas d'accord ». Parce qu'on a entendu des citoyens dans notre circonscription qui nous ont dit « mais ça va être encore une France à deux vitesses et ça va être encore les Français qui vont trinquer ». Donc ce dont on a besoin, c'est de députés qui ne soient pas à la botte du parti. Rappelez-vous la promesse macroniste. C'était de dire « vous inquiétez pas, on va dépasser le clivage droite-gauche ». La réalité aujourd'hui, c'est qu'on est enfermé dans un système de parti unique. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, vous avez des députés de la majorité En Marche qui n'ont pas le droit de co-signer des amendements qui viennent de notre groupe. Ça ne s'appelle pas le dépassement de la clivage droite-gauche, ça s'enferme l'enfermement idéologique dans un seul parti unique.
Voilà, vive les frondeurs donc, qu'on a vécu dans la mandature
précédente.
Non, vive les
hommes libres et responsables. Entre le frondeur et celui qui est aligné, il y a un espace politique pour celles et ceux qui veulent défendre l'intérêt de la France et des territoires.
Olivier Roucan, comment on explique qu'il y ait autant de gens effectivement favorables à moins de députés, moins de sénateurs? Est-ce qu'il y a des choses qui ne passent pas dans la manière dont nos institutions fonctionnent, qui font que les gens ont l'impression qu'il y en a la moitié qui ne servent à rien finalement?
Bon, d'abord, il y a une crise politique de la démocratie, de son fonctionnement depuis des années, même s'il y a certaines périodes, il y a des améliorations dans la perception, mais disons qu'il y a un éloignement. C'est-à-dire qu'on sait très bien que depuis assez longtemps, les Français pensent que les élites politiques se sont éloignées, qu'ils ne sont pas assez proches, qu'ils ne se préoccupent pas de leurs problèmes. Donc ça finit par avoir comme conséquence l'idée qu'en plus il faut faire des économies, donc il serait bon d'avoir moins d'élus, puisqu'ils ne font pas un travail satisfaisant. C'est un raisonnement assez simple. Alors, le problème, c'est qu'un raisonnement simple
mais
peut
trop
devenir
simple.
Simpliste. Et la question à se poser, celle du nombre de députés, de sénateurs, il faut la poser dans son contexte. Or, il y a des évolutions, notamment avec le quinquennat, il y a eu des évolutions du contexte du système politique qui font que, par exemple, si on a moins de députés alors qu'ils ne vont plus cumuler des mandats à la fois locaux et nationaux et dans le temps, trois, il y a quand même une question qui se pose, c'est est-ce qu'on va fabriquer une assemblée un peu hors sol, puisque ces personnes seront sans arrêt à l'Assemblée, vont travailler les textes, mais avec un manque de lien et d'ancrage territorial. Donc là, il y a quand même un souci, parce que les circonscriptions seront plus grandes s'il y a moins de députés. Et on retombera alors, si vous voulez, dans quelque chose qu'on entend déjà. Les députés, on les voit pendant les élections pour se faire élire, après on les voit plus. Alors si les circonscriptions sont plus grandes, ce sera un peu comme pour les parlementaires européens. Deuxième remarque, si on met de la proportionnelle, il y aura des listes. Donc cet effet sera également renforcé. Donc il faut faire attention, il faut essayer de comprendre la question du nombre au regard d'autres éléments.
Si on met de la proportionnelle, comment ça peut se passer? Comment ça marche dans ces cas-là? Parce que quoi, il y a deux députés par circonscription, il y en a un qui est le député parisien, l'autre qui est le député local. Si on introduit de la proportionnelle, comment ça peut se passer?
Il y a plusieurs systèmes possibles. D'abord, il faut savoir si la proportionnelle, ce seront des députés élus sur une liste nationale ou départementale, parce qu'on a eu un exemple de proportionnelle en 85 intégrale au niveau départemental. Donc là, tous les dosages et tous les calculs, il y a ceci. Il y a ensuite le type de proportionnel qu'on utilise, parce que ça peut favoriser les petits ou les grands partis. Alors, il y a la proportion du nombre de députés élus à la proportionnelle. En Italie, 61%, nous, on serait plutôt sur 20%. Bon, donc ce sont des questions assez compliquées. Quel est l'objectif de mettre de la proportionnelle? Revenons à ce qui compte. L'objectif, c'est le pluralisme politique. C'est-à-dire, c'est justement pour avoir des députés plus proches et qui ressemblent davantage à l'opinion, permettre une meilleure représentation des forces qui sont exclues ou surreprésentées. Et dès lors, la question qui se pose, elle a été évoquée, c'est peut-on, s'il y a plus de partis, si le paysage est plus fragmenté, continuer à avoir une majorité?
Damien Abad, sur la proportionnelle, je vous pose la question parce que Nicolas Sarkozy l'avait dit, puis finalement il ne s'est pas lancé, François Hollande l'avait dit, il ne s'est pas lancé, Emmanuel Macron l'a dit, pour l'instant se lance, mais on n'est pas encore au résultat.
Je pense qu'il faudra éviter une dose de proportionnelle qui déséquilibre et dénature les institutions de la Ve République. Si la proportionnelle empêche d'avoir des majorités claires, alors on aura échoué sur le sujet. Et le grand sujet que vous évoquez, et c'est la grande différence entre les Républicains aujourd'hui et la politique d'Emmanuel Macron, c'est que nous, on ne croit pas à la République hors sol. On croit à la République des territoires. Et réduire le nombre de députés ou de parlementaires, plus faire une dose de proportionnelle, ça veut dire faire demain des circonscriptions à 200 000, 250 000 habitants. Comment voulez-vous qu'un parlementaire puisse être sur le terrain, comme les Français le demandent, parce que vous avez raison. Les Français nous disent, ils viennent que pour les élections. Comment voulez-vous qu'ils fassent une présence territoriale dans des circonscriptions à 200 ou 250 000 habitants? Nous, on ne croit pas à la République hors sol.
Et c'est le sens de votre question, moins de députés, plus de gens à couvrir, si je puis dire. Bonsoir Pierre.
Pardon, oui, bonsoir. Oui, alors moi je dois dire que je suis contre cette réforme, mais je dirais que c'est pas le mouvement 5 étoiles qui est populiste, c'est le macronisme qui l'est, parce que ça pour moi c'est vraiment un grand populisme. L'auditeur précédent, il parlait des États-Unis, mais il a oublié que les États-Unis sont un État fédéral. Mmh. Ce qui n'est pas le cas en France, où il y a quand même une grande centralisation du pouvoir.
En général, comparaison n'est pas raison, effectivement.
Voilà. Donc, il faut faire attention. On pourrait mieux prendre un exemple, celui de la Grande-Bretagne, qui a à peu près la même population qu'en France. À la Chambre des communes, il y a 646 députés, presque 100 députés de plus qu'en France. Donc moi, je dis qu'il faut faire attention, parce que si on réduit le nombre de sénateurs et le nombre de députés, pardon, il va avoir comme conséquence que chaque député et chaque sénateur, il va représenter plus de gens. Donc pour moi, c'est plutôt anti-représentativité. Donc je crois que ça serait, on devrait presque même faire presque l'inverse, puisque la France est un des rares pays de toute l'Europe à connaître une croissance démographique. Si on veut que chaque député et chaque sénateur, il représente très bien les Français, on devrait même augmenter le nombre de députés et de sénateurs. Je crois qu'on va avoir une Assemblée nationale qui finalement ne va plus vraiment être à l'écoute des circonscriptions, de la population, du peuple. Et ça, moi je dis qu'il faut faire attention. Pour quelques millions d'euros que l'on va économiser, on aura des élus qui, en fin de compte, n'écouteront plus le peuple, et le parti qui sera majoritaire sera, comme il l'est déjà actuellement depuis le mois de mai 2017 avec Emmanuel Macron, à la botte du pouvoir. Donc je crains que la France soit beaucoup moins démocratique qu'elle ne l'est qu'elle ne l'est actuellement. Ça, c'est ma grande crainte, je le dis clairement.
Merci beaucoup pour votre remarque. Pierre-Olivier Roucan, est-ce qu'on peut se comparer d'ailleurs un petit peu quand même à nos voisins? Parce qu'effectivement, Pierre le disait à l'instant, 650 à la Chambre des communes, enfin 640,
oui, en 7, Allemagne
8.
Également.
En Allemagne, 600 aussi, 630 en Italie, moins en Espagne. On est dans la,
Nous avons 577 députés, on en a eu plus en d'autres temps sous d'autres républiques. On peut garder l'idée que 577 députés, c'est un nombre. D'ailleurs, là, pour le coup, il faudrait réviser la Constitution si vous voulez en mettre davantage, hein, puisque c'est un plafond qui a été fixé. Mais il faut peut-être distinguer l'Assemblée nationale du Sénat, parce que le mode d'élection n'est pas le même. Et le Sénat, cet auditeur parlait des États-Unis comme État fédéral, le Sénat, sa vocation première, c'est de représenter les collectivités territoriales. Même si nous ne sommes pas un État fédéral, il y a quand même cette idée aussi. Et on pourrait, par contre, imaginer, en effet, un Sénat avec beaucoup moins de sénateurs, j'allais presque dire un peu à l'américaine. Donc une évolution de ce point de vue peut-être aussi du rôle et de la place du Sénat, parce que il y a des personnes qui vous disent aussi depuis un certain temps, depuis un temps certain même, qu'il faudrait le supprimer, le Sénat.
Oui.
Donc peut-être qu'un objet d'une réforme un peu plus punchy, j'allais dire, que celle qui semble se dessiner, consisterait à réformer le Sénat avec une centaine de sénateurs pour mieux représenter les territoires, et peut-être élu sur une base régionale. Donc on peut imaginer une évolution qui ne serait pas la même pour l'Assemblée nationale et le Sénat, parce que ces chambres n'ont pas la même fonction.
Est-ce qu'on touche à la Constitution si on réduit considérablement le nombre de sénateurs ou pas? Est-ce qu'on touche dans le gras, là?
Non, il n'y a pas... Est-ce qu'il y a besoin de révision?
Voulez, c'est ça, si le sens voulez. De ma
non,
question,
non,
pardon.
Non, par contre, ça modifiera, si on diminue beaucoup le nombre de sénateurs, ça modifiera les conditions de révision de la Constitution.
D'accord.
Puisqu'il faut atteindre une majorité des 3/5 du Congrès. Et donc, le Congrès, c'est la totalité des parlementaires. Alors, si on modifie le nombre de sénateurs trop fortement, il ne pourra plus bloquer une révision constitutionnelle. Il faut penser à ça dans ce qui va être proposé aussi.
Bonsoir, Jean-Claude.
Oui, bonsoir à tous.
Allez-y, on vous écoute, Jean-Claude.
Voilà. Alors, donc, moi, je voudrais pas affirmer, comme les prédécesseurs auditeurs, de dire faut faire ci, faut faire ça. Je tire ma conclusion, mes questions. Je pense que le gouvernement a raison de se poser la question et je pense qu'il faut réformer ça, c'est sûr. J'en tire mon expérience d'élu local et de municipal et d'agglomération. Alors, ce que j'en retire, c'est la grosse chose, c'est que la politique, le mot politique est devenu un gros mot, et ça surtout, il faut le réhabiliter. La politique n'est pas un métier, et pour que la politique ne soit pas un métier et quelque chose qu'un citoyen fait, il faut que ce soit limité dans le temps et qu'il n'y ait plus de cumul. Parce que les élus sont décrochés, parce que c'est pas, ils font un métier et c'est pas un métier. On fait ça 10, 15 ans, et on arrête, on apprend, on fait, et on passe son tour. Voilà ce qu'il faut, et comme ça on aura des élus qui seront représentés dans toutes les couches sociales et dans tous les métiers, le privé, le machin, alors qu'aujourd'hui on dit que c'est très déséquilibré, ça je l'ai vu, je peux vous dire. Le gros problème du cumul de mandats, le gros problème de la durée du temps, c'est que un homme est un homme et qu'à un moment donné, on a des habitudes, on va dans la facilité, on va dans le confort. Et ça, moi, je l'ai même vu personnellement à un tout petit niveau. Et voilà. Donc, je pense que vous comprenez ce que je veux dire.
Oui.
Et donc, ça, c'est que la durée dans le temps et on passe à autre chose. On a fait autre chose avant. On donne son temps en tant que citoyen, ça pose la question du statut de l'élu d'ailleurs, hein, parce que il faut plus que ça s'appelle une indemnité, parce que ça veut plus rien dire une indemnité quand on voit des élus d'aujourd'hui qui cumulent des indemnités, qui arrivent dans l'élu local à 9 000 ou 10 000 euros, ça devient du grand n'importe quoi, ça je me permets de vous le dire. Et donc c'est pas une question, il faut y aller en profondeur. Voilà, je prends pas plus l'antenne que ça, mais je pense que le gouvernement a raison. Et d'ailleurs les nouveaux députés, ils sont nouveaux. Et moi, ça me plaît bien parce que là, ils vont apprendre et ils devraient d'eux-mêmes arriver à ces conclusions-là qu'à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent et qu'ils reviennent. Je vois qu'il y a des gens qui viennent de la société civile. Eh ben, ces gens-là, il faut qu'ils en donnent un max pendant 10, 12 ans. Et après, au revoir, je passe à quelqu'un d'autre parce qu'ils verront et s'apercevront tout seuls qu'ils vont dans une dérive qu'il faut pas. Et ça, il faut faire ça 10, 12 ans et arrêter.
Merci voilà. Beaucoup. Merci pour votre témoignage, Jean-Claude. Damien Abad, est-ce que c'est votre métier, député ou pas?
Je partage l'idée que la politique, c'est pas un métier, c'est une vocation.
Qu'est-ce que vous faisiez avant ?
J'étais maître de conférence. D'accord. En finances publiques. C'est une vocation, mais cette vocation, elle peut être plus ou moins longue. Et c'est le choix des électrices et des électeurs. Et moi, je ne veux pas que ce choix soit confiscatoire. Il peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans ou plus. Parce que si on limite dans le temps, ça veut dire quoi ? Prenons des exemples concrets. Ça veut dire qu'Alain Juppé pourrait plus être maire de Bordeaux. Ça veut dire que François Boiroin pourrait plus être maire de Troyes. Et je ne suis pas sûr que ce soit la volonté des habitants de ces villes-là qui considèrent que leur mandat est positif en tant que tel. Moi, je partage l'idée de l'auditeur sur le statut de l'élu, pour créer des conditions d'entrée et de sortie. Parce qu'il ne faut pas croire, ce n'est pas parce qu'on va interdire le cumul des mandats qu'on va renouveler la fonction politique. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, de députés, ils vont aller à sénateurs, de sénateurs, ils vont aller se faire élire maire ou président de communauté de communes. Donc l'enjeu, si on veut fluidifier la fonction politique, c'est de créer les conditions d'entrée et de sortie. C'est de faire en sorte que, quelle que soit sa profession, on puisse à un moment donné donner du temps de sa vie à la politique. Et je dis aussi attention à cet effet qui est de dire oui, au bout de 5 ans, il faut sortir. Parce que, effectivement, on ne professionnalise pas la politique, mais on est en train
3 fois 5, 15 là.
Oui, on est en train aussi de créer de l'amateurisme politique. Et on le constate tous les jours aujourd'hui à l'Assemblée nationale, dans cette nouvelle Assemblée nationale. Force est de constater, et tout le monde le note, qu'il y a quand même un affaiblissement des compétences techniques et de l'expertise sur un certain nombre de sujets. Donc je dis simplement, ne soyons pas dogmatiques sur ce sujet. Je partage, et je termine là, l'idée de l'auditaire de dire il faut réformer notre système.
Il ne peut pas y avoir problème... que des vieux politiciens non plus,
mais
monsieur Abad.
C'est pas ce que j'ai dit. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit.
Il faut bien qu'il y en ait qui débutent,
mais
quoi.
On est bien d'accord. Mais je dis simplement que quand on n'a pas démérité dans sa fonction politique, eh bien, on a le droit de pouvoir se représenter devant les électrices et les électeurs. Et je dis aussi que la réforme, que l'auditeur a raison de dire il faut réformer notre système, mais sauf que le gouvernement ne réforme rien du tout. Vous croyez que c'est parce qu'on va réduire de 100 députés que le pays va aller mieux ? Mais la réalité, c'est que moi, je propose qu'on fasse des réformes. Mettons en place la règle d'or budgétaire dans la Constitution. Instaurons des quotas sur l'immigration dans la Constitution. Mettons des systèmes... Oui, comme au Canada, bien entendu, et ça marche très bien, j'y étais, et je peux vous dire que ça fonctionne très bien. Mettons en place un système d'évaluation des politiques publiques
pour renforcer le Parlement. On n'a pas besoin de modifier la Constitution pour le Parlement. Définir...
Il y a des choses... Si la règle d'or budgétaire, on peut l'instaurer, on l'avait déjà portée, la règle d'or constitutionnelle, ça nous éviterait, par exemple, qu'on puisse voter depuis 1974 des budgets en déficit. C'est ça aussi
vous
la
réalité.
Vous avez
été répondu qu'il y a déjà, si on voulait le respecter, une indication dans la Constitution.
Eh bien, cette indication n'est pas respectée. Et la réalité, c'est que moi, je ne veux pas d'une Constitution qui bavarde. Parce que mettre une charte de l'environnement, comme c'est proposé, mettre un certain nombre de choses dans la Constitution,
l'article 34,
on devient une Constitution qui bavarde et qui ne dit plus rien. La force de la France, c'est l'équilibre des institutions de la Ve République.
Olivier Roucan, la Constitution est bavarde.
La Constitution est peut-être... a été parfois révisé pour des enjeux somme toute secondaires et on ne cesse d'ajuster. Et d'ailleurs, un grand nombre de propositions qui sont faites là dans ce qui semble prévu pour cette année, ce sont plus des ajustements, notamment sur la revalorisation de la fonction parlementaire que de véritables, j'allais dire, enjeux forts de rééquilibrage de l'exercice du pouvoir. Parce qu'il y a ça aussi quand même. Pourquoi la démocratie est depuis quelques années en crise, ou dans tous les cas, on voit l'abstention monter, notamment pour législative, parce qu'il y a un problème de rythme aussi dans notre République. Et là-dessus, pour l'instant, on n'entend pas grand-chose. Le quinquennat a créé un déséquilibre dans l'exercice du pouvoir, ou l'a renforcé plutôt. Et là-dessus, on ne voit rien dans ce qui est proposé pour essayer d'équilibrer les choses, par exemple.
Est-ce que si on rechangeait le quinquennat, ça équilibrerait mieux, selon vous? Est-ce qu'on était mieux équilibré sous le septennat?
Il y avait des périodes de présidentialisme, évidentes, mais il y avait aussi des temps qui permettait au Premier ministre et à l'Assemblée d'avoir davantage de pouvoir, puisque la durée des mandats n'était pas les mêmes. Et donc, ça a même donné lieu, rappelez-vous, aux périodes de cohabitation qui rééquilibraient ce présidentialisme. Avec le quinquennat, on ne comprend plus vraiment pourquoi on a deux élections pour attribuer un pouvoir qui est finalement le même, celui du président de la République.
C'est la raison pour laquelle on est passé au quinquennat, non? Pour pouvoir justement accorder, on va dire, présidence et parlement.
Oui, sauf que les législatives, depuis, ont 50% d'abstention. Or, le Parlement, c'est quand même, dans notre histoire constitutionnelle, le cœur de la démocratie. Hein, si les gens ne vont plus élire les députés, ça finira par poser un problème.
Eh bien voilà, il y a un auditeur qui vous écoute, qui s'appelle Richard, et qui nous dit « Revenons au septennat non renouvelable. » Là, pour le coup, dit-il, le président ne travaillera pas à sa réélection, il aura le temps d'agir, ce qui réglera également le problème de la primaire, d'ailleurs, pour le président sortant.
Il y a plusieurs idées possibles, c'est évident. Certains veulent le septennat renouvelable, d'autres veulent le 6-4, 6 ans pour le président, 4 ans pour les députés. D'autres veulent 6 ans pour les députés, 5 ans pour le président. Enfin, on peut tout imaginer.
Alain est à Blois et nous appelle. Bonsoir Alain.
Oui, bonsoir.
Allez-y Alain.
En plus de la charge de travail qui fait qu'un député représente son département et représente aussi la nation, il se trouve que s'ils sont moins nombreux et comme les dossiers deviennent de plus en plus techniques, de plus en plus pointus à étudier, on se demande comment ils vont faire. On s'aperçoit déjà que des députés nouvellement élus se plaignent de la charge de travail. Il va falloir étudier à fond les dossiers avec de moins en moins de députés. C'est la porte ouverte complète aux lobbyistes. C'est-à-dire, on va aller au plus facile, on va se fier à des rapports de lobby, le contact large avec la population pour avoir un avis large et donc démocratique, il va disparaître. Moi, je suis contre cette réforme. Il y a de plus en plus de Français, il y a de plus en plus d'habitants, de plus en plus de problèmes techniques à régler et de plus en plus pointus. Il est hors de question qu'on diminue le nombre de députés, c'est pas logique.
Merci beaucoup Alain. Damien Abad, ça représente quoi effectivement le travail technique d'un député, c'est-à-dire les commissions, travailler vraiment aux lois, etc. En dehors du temps que vous pouvez passer dans la circonscription et même à l'Assemblée, le travail technique c'est quoi? C'est combien de temps?
C'est beaucoup de temps quand on veut s'y investir pleinement. Chaque député est membre de ce qu'on appelle une commission permanente, ce qui lui permet de travailler sur des textes, que ce soit les lois, la défense, les affaires économiques, finances ou autres encore. Et donc, à chaque fois qu'un texte arrive à l'Assemblée nationale, eh bien, il y a un travail en commission qui est fait sur le texte. Mais il y a aussi le travail d'audition, puisqu'on auditionne des personnes. Moi, je suis à la commission défense. En ce moment, on fait beaucoup d'auditions autour de la loi de programmation militaire. Et donc, c'est un investissement quotidien. Et c'est un investissement qui prend au moins la moitié de de la semaine si on veut s'impliquer à la fois en commission, ensuite en séance publique et dans les différents groupes de travail. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travail pour celles et ceux qui veulent s'investir dans les sujets. On a besoin de cette expertise et on a besoin aussi, je rejoins ce que disait notre auditeur, on a besoin aussi qu'on soit accompagné. Parce que souvent, un député, il se trouve dépourvu par rapport à un ministre qui a un cabinet ministériel, qui a une administration derrière lui, là où un député, quand il est rapporteur, il a parfois juste un administrateur de l'Assemblée nationale et finalement un ou deux collaborateurs. Et donc, les moyens d'investigation sont limités. Moi, je suis pour qu'on renforce aussi le pouvoir d'évaluation et de contrôle de la loi, parce qu'on a besoin d'un meilleur suivi, d'une meilleure évaluation de la loi pour la corriger quand cela est nécessaire. Mais pour cela, on a besoin d'avoir des pouvoirs d'investigation, des commissions d'enquête comme il en existe, mais qui ne sont pas assez développées. Donc, vous voyez, il y a tout un état d'esprit, une culture parlementaire à retrouver. La culture parlementaire, c'est la culture du débat, de l'évaluation et du contrôle.
Olivier Roucan, l'argument d'Alain qui dit effectivement c'est la porte ouverte peut-être au lobbyisme, à certains lobbyistes en tout cas qui profiteraient du fait que les députés sont débordés pour appuyer plus facilement leurs idées, c'est une vraie crainte ou pas?
Ah, la crainte existe, même si les conditions d'exercice du lobbying ont été mieux cadrées par la loi Sapin de 2016, mais ceci étant dit, on entend pour justifier la réduction du nombre de parlementaires, que la contrepartie serait ils auront un staff de collaborateurs plus important. Alors, cet argument n'est pas inintéressant. C'est vrai qu'aux États-Unis, puisqu'on a comparé, il y a là des groupes très importants de collaborateurs. Simplement, d'abord, on n'arrivera jamais au même nombre. Mais ensuite, la question, c'est faut-il remplacer des élus qui peuvent travailler ensemble? Parce qu'un député ne travaille pas tout seul dans son coin. Donc, ils peuvent partager de l'information et ils agissent ensemble. C'est le sens du groupe parlementaire ou des sous-groupes, sous-commissions, etc. Deuxième remarque, faut-il donc remplacer des élus par des collaborateurs sur lesquels l'électeur n'a aucune prise. C'est-à-dire que le collaborateur, et on a vu que ça pouvait poser des problèmes, n'est pas choisi de façon transparente. Donc il faut y réfléchir à deux fois, encore une fois, sur comment veut-on que la démocratie fonctionne.
Michel, bonsoir.
Oui, bonsoir. Moi, je vous parle du Tarn.
Du Cap
en fait, je vous parle du Tarn, vous m'entendez bien?
Ah, pardon, du Tarn. J'ai compris du Cap et je me disais, c'est non, bien loin
Tarn,
tout ça.
Tarn
du Tarn,
profond,
oui, c'est beaucoup moins loin.
Le Tarn profond, si vous voulez.
Allez-y, Michel, ça s'entend
et,
votre accent.
En fait, je pense que le débat sur la réforme constitutionnelle est très mal posé. Le problème, je pense qu'il y a une déconsidération complète, très générale, disons, de la démocratie telle qu'elle fonctionne en France. Je pense que c'est pas une démocratie. On se base toujours sur la démocratie représentative. On parle des députés, de ceci et de cela. Au fond, la question, c'est la démocratie participative avec l'initiative qui est pour les lois. Les citoyens peuvent, proposer des lois qui s'imposeront, quel que soit l'avis, du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif. Et c'est le seul, à mon avis, c'est la réforme fondamentale.
C'est ce que vous suggérez dans votre question, vous voulez de la votation suisse, en fait.
Ça se rapproche de ça. Il y a l'article 11 en France, il n'a pas été utilisé, il est très, très, très restrictif. Et puis il y a une deuxième chose aussi, qui une des tares, il y a beaucoup de tares dans la démocratie représentative. Une des tares, c'est le régime des partis. De Gaulle avait fait la 5e République contre le régime des partis, ils sont revenus et ils prennent tout. Et donc, il faudrait qu'il y ait instauré le vote à bulletin secret. Au moins que quand quelqu'un demande un vote à bulletin secret, ça s'impose. Parce que c'est la discipline de vote. Quel que soit le parti, il y a manifestement des gens qui sont pas d'accord et qui votent par discipline. Et alors qu'ils savent très bien que ça ne va pas. Alors, il y aura beaucoup d'autres propositions à faire. Moi, j'en ai fait, disons, dans mon petit secteur. Mais enfin, bon, je vais pas monopoliser. C'est simplement l'essentiel, ça serait... disons reconnaître la possibilité pratique du référendum d'initiative populaire qui changerait complètement la donne. Et la première chose qui serait à mettre comme référendum d'initiative populaire, c'est la reconnaissance, disons, du vote blanc comme un vote exprimé.
Eh ben, alors, beaucoup de choses dans votre question, Michel. On va parler référendum dans un instant. Juste avant Damien Abad, si vous votiez, sincèrement, si à l'Assemblée vous votiez à bulletin secret, est-ce que vous pensez que les choses se feraient très différemment?
Je pense que...
Et j'ai une subsidiaire, si vous n'aviez pas le droit de tourner la clé de votre voisin aussi d'ailleurs.
Oui, enfin ça, je pense que enfin moi c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Je dis simplement que je pense que effectivement les parlementaires doivent voter en fonction de leur âme et conscience et que le vote doit être libre et responsable. C'est ce que j'essaye de faire. Et quand il y a des textes qui vont dans le bon sens, je les vote. C'est le cas sur les ordonnances travail, ça a été le cas sur la loi confiance. Mais c'est vrai qu'il y a ce régime des partis. Vous savez, il y a soit le bulletin secret, soit un truc tout simple, ça s'appelle le courage politique. Et l'autre chose que je veux dire, c'est que le régime des partis, il sera renforcé par la réforme constitutionnelle. C'est ça le problème. Parce que si vous mettez une dose de proportionnelle, plus des députés qui sont élus sur des grandes circonscriptions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'étiquette politique va encore plus compter demain qu'aujourd'hui. Et ça veut dire que vous serez encore plus enfermé dans l'étiquette politique demain qu'aujourd'hui. Parce que ce qui fait la force d'un député aujourd'hui, c'est quand il est élu sur son nom, c'est quand il est connu sur un territoire pour ses actions, ce qui lui permet justement d'avoir cette liberté de ton par rapport à son parti politique. Donc je dis attention, parce que la dose proportionnelle plus l'éloignement des territoires, et monsieur est du Tarn, le problème, moi j'ai envie que des députés représentent les territoires ruraux, parce que c'est là aussi où on a besoin de représentation. Donc c'est là-dessus que je mets une alerte qui est importante. En ce qui concerne ensuite le vote, je crois que ce qui est très important, moi je suis pour aussi le vote public, parce que ça permet aussi de savoir comment on se positionne. Mmh. Ça permet aussi de voir si les électrices et les électeurs, quand un député a pris des engagements, moi j'avais pris par exemple l'engagement de voter des lois confiance, mais je suis très heureux que ce vote soit public, parce qu'au moins je peux rendre des comptes aussi aux électrices et électeurs, et je pense que c'est important d'avoir cette publicité et cette explication du vote.
On parlait de la clé à l'instant, on va revenir au référendum, hein, mais Olivier Roucan, est-ce que c'est un système qui nous est propre, ça, de pouvoir être deux à l'Assemblée nationale mais voter pour l'ensemble de ses voisins?
Ah, deux à l'Assemblée nationale.
Enfin bon, j'exagère un petit peu.
Excusez-moi, mais sur la clé, parce que en fait, à l'Assemblée nationale, c'est pas tout à fait comme au Sénat. À l'Assemblée nationale, vous pouvez avoir qu'une seule délégation de vote, c'est-à-dire qu'un député ne peut voter que pour un autre député. Donc ça veut dire qu'il faut
il ne faut pas qu'on soit deux. Voilà.
Non, mais c'est différent au Sénat. Vous avez raison pour le Sénat. Mais là, ça veut dire qu'au moins, là, par exemple, nous, on est 102. Il faut qu'il y ait au moins 51 députés pour qu'il y ait 102 votes.
Mais on peut avoir dans le règlement, là, on ne parle plus de constituant, dans le règlement des assemblées, un cadrage de ces pratiques et trouver des systèmes qui ne choquent pas l'opinion, mais qui rendent le fonctionnement de la vie parlementaire efficace. En Grande-Bretagne, par exemple, tous les parlementaires élus ne peuvent pas au même moment entrer dans l'hémicycle. Donc, si vous voulez, il y a aussi des anomalies.
Qui n'est pas un hémicycle, d'ailleurs.
Oui, exactement.
C'est pas grave.
Dans l'arène parlementaire. Mais vous allez me dire, c'est peut-être pas une arène non plus. Dans tous les cas, donc si vous voulez, il faut quand même comprendre qu'il y a des contradictions à résoudre, rendre complémentaires des exigences parfois un peu choquantes, mais il faut pas empêcher la vie parlementaire de se dérouler normalement. Moi, ce que je relève par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure.
L'article 11.
L'article 11, vous voulez qu'on parle du référendum.
Ouais.
Oui. Le référendum, bon, donc, il y a eu une petite modification qui permet aux citoyens éventuellement de faire passer une loi par référendum, mais elle a été insuffisante. En effet, cet auditeur souhaite qu'il y ait des processus plus émergents de fabrication de la loi, que ça parte d'en bas. Pourquoi penser tout de suite d'ailleurs au référendum? On pourrait tout à fait imaginer un processus émergent qui permette aux citoyens d'une circonscription de travailler plus dans des ateliers. Et ça se fait déjà un peu avec des députés pour fabriquer des amendements et pour contribuer assez directement à la fabrique de la loi. Ça aussi, ça peut... Moi, j'avais imaginé une contrainte dans le règlement d'une assemblée qui aurait obligé un parlementaire au moins deux fois pendant la durée de son mandat, à organiser des concertations lorsqu'il travaille sur une mission, un rapport, ou lorsqu'il participe à la fabrication d'une loi. Et dernier point, il y a notamment avec les civic tech, ce qu'on appelle les civic tech, donc le numérique pour faire court, plus de possibilités aujourd'hui de ménager ces concertations et d'avoir un lien plus direct entre le parlementaire et ses électeurs. Donc je pense qu'il faut partir, lorsqu'on veut travailler sur l'émergence, de ces réalités, plus que de modifier les textes sans arrêt, parce que ça a finalement peu d'effet dans la pratique.
On peut même aller un cran plus loin avec une sorte de droit de pétition qui obligerait le parlementaire et l'Assemblée nationale à avoir le débat sur un sujet. C'est-à-dire que les parlementaires garderaient la possibilité de voter ou pas la loi, mais si vous aviez 100 000 citoyens, par exemple, qui s'expriment sur un sujet et qui souhaitent que ce sujet soit mis à l'ordre du jour et qu'il y ait une obligation de mise à l'ordre du jour. Ça revient un peu à ce que vous dites aussi sur les groupes de travail numériques et autres. Je pense que c'est important qu'il y ait des éléments participatifs dans la démocratie représentative.
Donc, pas forcément jusqu'au référendum, mais au moins jusqu'au débat à l'Assemblée.
Parce qu'on sait bien que l'outil du référendum, on ne peut pas l'utiliser tous les matins.
Et parce qu'on ne répond pas à la question posée.
Et ça n'a pas été conçu comme ça par le général de Gaulle. Simplement, on a besoin d'éléments de participation dans la démocratie représentative. Pourquoi ? Pour que la démocratie représentative soit plus forte, plus efficace, et que les citoyens aient le sentiment, quand ils élisent leurs représentants, eh bien, ils les représentent vraiment. C'est ça l'enjeu. C'est pas que la démocratie représentative remplace la démocratie participative, pardon, remplace la démocratie représentative, mais c'est qu'on renforce le pouvoir démocratique et l'efficacité de cette démocratie
représentative. C'est pour revenir aussi par rapport à ce que disait l'auditeur sur les partis politiques. Il faut quand même bien comprendre qu'on n'a pas de démocratie sans organisation, sans parti politique. Et les gens qui ne sont pas contents de leur parti n'ont qu'à investir leur section, militer et agir pour améliorer la représentation au sein des partis politiques. Mais si vous dites... si vous voulez, il faut arrêter avec les partis politiques. La question à se poser, c'est faut-il arrêter avec la démocratie représentative ?
Romain, bonsoir.
Oui, bonsoir.
C'est vous le suivant parce que vous allez directement dans ce sens-là ou plutôt dans le sens inverse. On vous écoute, allez-y.
Bah, effectivement, toujours dans cette idée de revitaliser la démocratie, moi, il y a quelque chose qui me paraît important, c'est la déprofessionnaliser aussi. Et à ce titre-là... pourquoi j'aimerais connaître l'opinion de vos invités sur la mise en place d'un système de tirage au sort pour composer tout ou partie d'une assemblée, remplacer des modes de fonctionnement qui aujourd'hui me paraissent un peu obsolètes et qui surtout stérilisent, je trouve, le débat public autour d'un certain nombre de personnalités qui prennent la parole et ont du mal à la lâcher après. Voilà.
Merci beaucoup Romain. Comme il nous reste peu de temps, l'un après l'autre, Damien Abad, dans l'idée que vous auriez des collègues qui seraient tirés au sort, il y aurait une sorte de roulement, qu'est-ce que vous en dites ?
Alors je suis totalement opposé au tirage au sort, parce que pour moi le tirage au sort c'est le contraire de la démocratie. La démocratie, ce sont les citoyens qui choisissent. Le tirage au sort, c'est qu'on impose finalement un choix à tout le monde. Il y a une élection, il faut simplement que dans cette élection, il y ait une volonté des citoyens de s'exprimer pour choisir leur représentant. Vous imaginez si on tire au sort quelqu'un qui, par exemple, ne veut pas être député. Comment ça va se passer ? Vous imaginez si on tire au sort quelqu'un qui a telle ou telle difficulté et autres. C'est absolument ingérable, donc je comprends ce qu'on veut dire à travers ça. Mais par principe, je suis contre le tirage au sort, comme les députés d'ailleurs. Comme pour les universités, parce qu'il y a eu assez d'étudiants qui ont souffert du système de l'APB et du système où finalement ils étaient tirés au sort pour choisir leur orientation.
Olivier Roucan, un APB à l'Assemblée, qu'est-ce que vous en dites ?
Non, le tirage au sort peut être utilisé, mais là encore, dans des jurys citoyens, dans certaines pratiques démocratiques, dans les collectivités territoriales d'abord, ensuite, si ça fonctionne bien, si ça devient un élément de la culture politique, ça pourra avoir un écho peut-être national. Nous n'en sommes pas là. Donc, ces instruments sont à utiliser, j'allais dire, avec pertinence et d'abord en faisant des tests. Et il faut penser aussi à la démocratie locale.
Qu'est-ce que vous diriez, Damien Abad, ce sera la dernière question, si cette réforme constitutionnelle passait par référendum, justement, parce que c'est dans l'air. C'est d'ailleurs intéressant qu'on parle de la menace du référendum. Est-ce que ce serait très mauvais signe pour vous ?
C'est une curieuse conception de la démocratie. Qu'est-ce qu'est en train de nous dire le président de la République ? Il dit, ben en gros, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je ne respecterai pas les institutions et je les contournerai. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait la démocratie. Le Parlement, il n'est pas là pour être à la botte du pouvoir. Le Parlement, il a le droit d'amender, il a le droit de modifier, il a le droit de dire, là, je suis d'accord à moitié, là, je ne suis pas d'accord. Il a le droit de contester, il a le droit d'améliorer les textes. Donc, utiliser le référendum comme une menace, comme une arme, je dis, ce n'est pas respecter les institutions et l'équilibre démocratique. Et je dis même chiche, parce que si on fait un référendum, eh bien la question qu'on va poser aux Français, c'est est-ce que vous êtes pour la République hors sol ou est-ce que vous êtes pour la République des territoires ? Et je suis à peu près sûr de leur réponse.
Olivier Roucan, on peut utiliser un référendum pour ce genre de questions ? Ça rentre tout à fait dans l'idée du référendum ?
Ça dépend sur quoi. Et voilà encore,
comment la question sera posée
dans un débat un peu technique, mais si c'est sur la proportionnelle et le cumul, on peut l'utiliser dans le cadre du référendum législatif article 11, juste pour répondre à monsieur, ça rappelle quand même la technique gaullienne hein, qui a fait des référendums contre le Parlement.
Oui, enfin, l'objet du référendum, c'est quand même plutôt de faire respecter la Constitution. La modification de la Constitution passe plutôt par une réforme du Parlement. C'est ça l'esprit de la Ve République.
Et ce sera le mot de la fin, parce que l'heure tourne. Merci à tous, merci beaucoup, portez-vous bien.